La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Avez-vous déjà croisé sur votre route des personnes qui ont ce don de vous mettre particulièrement mal à l'aise ou carrément de vous vampiriser ? Ces individus sont très habiles pour vous pomper l'énergie, s'en nourrir et pour en général ne rien vous proposer en échange. On les appelle donc les vampires psychiques. On peut les croiser au quotidien, sur le lieu de travail, dans nos cercles relationnels, dans la famille ou même parfois au sein du couple. Différent des pervers narcissiques, le vampire psychique ne veut pas vous détruire. Il est même capable d'aimer et de souffrir en cas d'abandon, mais cela le temps de trouver une nouvelle victime. C'est le dossier de l'émission dans un instant, à l'occasion de la sortie d'un livre consacré à ces relations toxiques. J'attends dès maintenant vos messages et vos témoignages sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Catherine de Copé, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui une étude sur la biodiversité des sommets européens.
Une biodiversité qui augmente de façon accélérée, c'est ce que nous apprend cette étude publiée dans Nature, un phénomène qui serait dû au réchauffement climatique. On en parle dans un instant avec Jonathan Lenoir, chercheur au CNRS et l'un des co-auteurs de cette étude.
Et c'est Anne-Cécile Perrin qui réalise cette semaine notre émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Anna Massardier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les vampires psychiques, ce sera donc le dossier de notre émission dans un instant. Bonjour Stéphane Clerget.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bienvenue à vous, vous êtes psychiatre et vous publiez donc cet ouvrage. Ces vampires, c'est une nouvelle race que nous pouvons croiser tout autour de nous.
Oh, c'est une race qui a des siècles, mais qui effectivement est passée longtemps inaperçue. Mmh. Et il est temps de jeter la lumière sur eux, ce qui serait d'ailleurs le meilleur moyen peut-être de s'en départir, sinon de les faire disparaître.
Donc il faut d'abord les reconnaître.
Oui, les repérer, se rendre compte qu'on est leur victime.
Et après, apprendre à s'en dépatouiller.
Exactement.
Ce qui n'est pas toujours le plus simple.
À les tenir à distance.
Ouais. Vous avez croisé pas mal de victimes de ces vampires psychiques. Nous pouvons nous-mêmes à l'occasion être également nos propres vampires psychiques. On
c'est
va en parler dans un instant avec vous. Et puis vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et puis on fera bien la distinction avec les pervers narcissiques.
D'accord.
Stéphane Clerget, à tout à l'heure.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et le réchauffement climatique qui aurait un impact direct sur la biodiversité des sommets, c'est en tout cas l'hypothèse d'une équipe de recherche internationale qui s'est penchée sur l'évolution de la flore de quelques 302 sommets. Et pour les chercheurs, ce serait un signe supplémentaire de ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire l'altération des écosystèmes par l'activité humaine depuis maintenant plus de 60 ans. Catherine de Copé, pour en parler, nous sommes comme tous les lundis avec nos confrères de Reporter.net, Hervé Kempf.
Bonjour avec M.
Bonjour.
Et nous sommes aussi en duplex de France Bleu Picardie avec vous, Jonathan Lenoir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur ingénieur en sciences forestières et maître de conférence à l'université de Picardie Jules Verne. Et vous co-signez donc cette étude publiée dans Nature il y a quelques jours. Alors pour cette étude, pas moins de 302 sommets européens de différents massifs ont été observés. C'est d'ailleurs un des points remarquables de cette étude. Comment fait-on concrètement pour observer 302 massifs ?
Alors, il faut effectivement beaucoup de temps. C'est aussi de la recherche d'informations dans la littérature scientifique, puisque c'est des sommets qui avaient été inventoriés par des botanistes il y a déjà plusieurs années. Pour les plus anciens, en tout cas pour les inventaires les plus anciens, ça date de 1870 dans l'étude. Donc, il y a à peu près 150 ans de recul au niveau temporel. Et donc, c'est une première phase de recherche dans la littérature. On fouille un petit peu ce qui existe dans les livres, dans les différentes thèses ou bien dans des articles scientifiques qui ont publié en fait des inventaires botaniques à une certaine date. Et l'avantage, c'est que ces massifs et ces sommets de montagne sont généralement bien localisés dans l'espace. On peut facilement revenir sur un sommet, puisque un sommet est facilement identifiable. Et ça bouge pas trop dans l'espace.
Alors l'idée, c'est de collecter des données sur le même endroit à plusieurs moments pour avoir une série temporelle. Donc vous avez retenu les sommets qui ont été observés combien de fois à peu près ?
Alors, il y a une grosse variabilité dans ces données. Il y a des massifs qui ont été observés, au minimum, il faut au moins deux images. Mais avec deux images, on ne peut pas voir une accélération. Tout au plus, on voit une vitesse, un changement, en jouant au jeu des différences entre ces deux images. Mais il nous faut bien minimum trois images pour commencer à voir une accélération. Et il faut savoir que certains massifs ont été inventariés jusqu'à neuf fois, en fait, de manière plus ou moins étalés dans le temps. C'est surtout des massifs en Suisse et dans les Alpes suisses qui ont été beaucoup échantillonnés par les botanistes. Donc voilà, au maximum 9 fois et au minimum, on va dire, 2 fois.
Alors avec toutes ces données, vous avez réussi à prouver que la biodiversité de ces sommets s'est donc enrichie ces dernières années, et ce, de façon accélérée. Quel est votre résultat concret, si je puis dire? Est-ce que vous pouvez le détailler?
C'est-à-dire que si on regarde il y a à peu près 50 ans, quand on fait l'analyse du changement de biodiversité, c'est-à-dire du nombre d'espèces qui colonisent un peu les sommets, on constate qu'il y a 1,1 espèce, on va dire, qui colonise les sommets sur la décennie d'il y a 50 ans, alors que sur la décennie actuelle, on atteint 5 espèces, si vous voulez, en moyenne, sur la décennie actuelle. Donc c'est 5 fois plus important qu'il y a 50 ans en termes de vitesse de colonisation du nombre d'espèces qui arrivent sur ces sommets.
C'est cette accélération, justement, Jonathan Lenoir, qui surprend au vu des résultats?
Oui, c'est vraiment peut-être le résultat novateur, en fait, ici nouveau, qu'on met en avant. C'est non seulement le caractère, le fait qu'on regarde à une très grande échelle sur 302 sommets, sur l'ensemble de l'Europe, que ce soit des Pyrénées jusque dans les montagnes scandinaves au nord de la Norvège. Mais effectivement, le résultat majeur, c'est de montrer cette accélération qui se fait au cours du temps avec de plus en plus d'espèces qui colonisent ces sommets.
Hervé Kempf pour Reporter.net.
Et ben alors, qu'est-ce qui se passe pour les espèces qui vivaient ou qui vivent au sommet, qu'est-ce qui va leur arriver? Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi en dessous, à l'étage inférieur? Est-ce que les espèces colonisatrices y restent ou est-ce qu'il y a une autre flore qui apparaît?
Alors, les espèces, effectivement, qui sont sur les sommets, il y a beaucoup d'espèces qu'on va dire un peu typiques de ces sommets de montagne, des espèces alpines. Pour elles, on observe qu'elles étaient déjà présentes et qu'elles sont toujours présentes. Donc, on n'a pas observé, en tout cas dans les données qu'on a sur ces 302 sommets un peu partout en Europe, de disparition d'espèces. On n'a pas d'extinction avérée. Donc, on observe toujours ces espèces typiques, comme des androsas, androsas des Alpes ou androsas ciliée, pour noter quelques exemples d'espèces typiques de ces sommets, ou la renoncule des glaciers, qui est une espèce typique des sommets de montagne dans les Alpes. Donc, on les observe toujours, elles n'ont pas disparu. Mais par contre, le fait qu'il y ait d'autres espèces qui arrivent des étages inférieurs, c'est-à-dire, on va dire, des espèces un peu plus d'altitude inférieure des sommets, où on va avoir des pelouses alpines très riches en espèces, avec une biodiversité importante, beaucoup plus importante que la biodiversité qu'on peut observer sur ces sommets. Ces espèces-là, elles ont progressé vers les sommets. On observe, par exemple, si je donne des exemples d'espèces qui ont colonisé ces sommets et qui n'étaient pas présentes là avant, il y a le cas de l'arnica des montagnes, qui est une plante qui parlera certainement à beaucoup de gens. L'arnica, en fait, est une espèce qui n'était pas du tout présente, qui était complètement absente des sommets il y a 100 ans, quand on regardait les premiers inventaires. Et aujourd'hui, on la trouve sur 14 sommets parmi les 302 inventoriés. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais voilà, passer de 0 à 14 sommets où on a une colonisation avérée d'arnica, c'est quand même un résultat important au niveau de cette espèce. Il y a d'autres exemples de ce type-là. Il y a par exemple des espèces de fougères. Il y a beaucoup de fougères qui ont colonisé les sommets. Ça, c'est quelque chose d'assez marquant dans les données. On avait jusqu'à, on va dire, 20 sommets à l'époque qui étaient occupés par des fougères. Et aujourd'hui, on a jusqu'à 69 sommets sur les 302 étudiés, donc 49 de plus, qui présentent des espèces de fougères qui n'étaient pas là avant. Donc une vraie colonisation de fougères sur ces sommets, sachant que les fougères, en fait, ont une capacité aussi de dispersion supérieure aux plantes vasculaires ou plantes à fleurs, parce qu'elles ont cette capacité de disperser par des spores. Et les spores sont très bien dispersées par le vent, donc en fait, elles sont efficaces pour coloniser rapidement de nouveaux milieux et les sommets de montagne, notamment.
Alors, on comprend bien, Jonathan Lenoir, cette cohabitation. Alors, cette augmentation de cette biodiversité au sommet, elle serait liée donc au réchauffement climatique. C'est l'autre résultat d'envergure de votre étude, puisque vous avez croisé les deux courbes, si je puis dire.
Oui, c'est exact. En fait, si on doit pouvoir mettre en avant, on va dire, un suspect numéro un parmi les différents candidats en termes d'explication de ce qu'on observe, c'est effectivement le réchauffement des températures à l'échelle globale, et notamment sur les massifs, qui explique le mieux nos résultats. Alors qu'on peut pas dire que c'est une relation de cause à effet, ce sont des corrélations. Donc on a une corrélation très positive entre l'accélération de cette biodiversité qui augmente sur les sommets et l'accélération de l'augmentation des températures elle-même sur les sommets. On a des sommets qui ont présenté des augmentations de température de l'ordre de 2-3 degrés par rapport à il y a un siècle, si vous voulez. Donc sur les sommets, l'augmentation des températures est notable, limite plus importante que ce qu'on peut observer à plus basse altitude. Et si on regarde les autres candidats ou les autres facteurs qui pourraient expliquer ces changements, notamment tout ce qui est dépôt atmosphérique et notamment eutrophisation liée au dépôt atmosphérique, à la pollution atmosphérique, ça aussi c'est un facteur global qui est souvent mis en avant pour expliquer des changements de biodiversité, puisque l'apport d'azote va améliorer, si vous voulez, les conditions du milieu et favoriser l'arrivée d'espèces un peu nitrophiles. Donc ça, on a regardé ça aussi, mais c'est pas un facteur qui explique les résultats observés sur ces massifs. Donc on a écarté cette hypothèse, et puis il y a aussi l'hypothèse de l'augmentation des activités humaines à haute montagne, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de randonneurs, de gens qui utilisent la montagne aujourd'hui et qui peuvent favoriser aussi ces colonisations à haute altitude. Ça, pareil, c'est des choses qu'on a regardées, mais qui n'expliquent pas vraiment les tendances observées.
Mais Jonathan Lenoir, justement, l'intention, c'est pas le mot à employer, mais en tout cas, pourquoi est-ce que ces plantes, justement, vont vers les sommets? C'est pour essayer de conserver une température? Quelle est l'explication, alors?
Ah oui, alors l'explication de cette colonisation, on va dire, par reproduction, parce qu'en fait, les plantes sont des organismes sessiles, donc il faut que ça passe par la reproduction et la dispersion des graines. Ça se fait parce qu'effectivement, les températures au sommet sont aujourd'hui plus clémentes que ce qu'elles n'étaient il y a, par exemple, 10, 20 ou 30 ans. Mmh. Et cette augmentation des températures va favoriser, si vous voulez, la germination de graines qui auraient pu être dispersées aussi il y a 20 ou 50 ans. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les spores des fougères, elles sont, je pense, dispersées un peu partout. Mais il y a 50 ans, les conditions de température n'étaient pas favorables à la germination de ces spores ou de ces graines. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des températures, ces conditions deviennent favorables à la germination et à la colonisation, l'installation de ces espèces à haute altitude, et voire sur les sommets, jusqu'à justement occuper un espace qui était jusque-là inoccupé pour elles, et où finalement elles cohabitent avec des espèces plus typiques de ces sommets, que sont les espèces alpines. Alors bien évidemment, il faut quand même qu'il y ait un sol qui s'installe, c'est-à-dire que si c'est vraiment un sommet rocailleux avec que des roches, etc., c'est difficile pour des espèces de coloniser. Mais dès qu'il y a un petit peu de sol et d'espace qui peut être occupé, ces plantes vont germer et coloniser le milieu.
Merci Jonathan Lenoir. Explication donc suite à cette publication dans Nature autour donc de 302 sommets et ces changements de biodiversité. Merci beaucoup. Hervé Kempf, un œil sur le sommaire de Reporter.net avant de vous quitter.
Oui, tout à fait. On s'est intéressé ce matin à un écosystème devenu presque unique, un bocage en zone humide qui est apparemment menacé très vivement par une espèce invasive. Est-ce que ce sont des vampires psychiques? En tout cas, ils sont armés de matraques et de lance-grenades. Et du coup, on s'est aussi intéressé à un sujet totalement ignoré et scientifique, c'est le contenu des grenades lacrymogènes. Bizarrement, à la différence de nombre de produits chimiques d'usage courant dont on doit connaître la composition, c'est légal, c'est absolument impossible de savoir ce qu'il y a dans les grenades lacrymogènes, les adjuvants, les produits chimiques. Et c'est un vrai problème parce que c'est évidemment dangereux pour la santé, non seulement des manifestants, mais aussi des policiers et des gendarmes.
Donc vous avez mené l'enquête pour Reporter.net. Merci beaucoup Hervé et Catherine, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'intelligence artificielle qui pourrait servir à trouver de la vie sur d'autres planètes. Une équipe d'astrophysiciens de l'université de Plymouth s'était appuyée sur des réseaux de neurones artificiels capables de classer les planètes en 5 types, leur ressemblance à la Terre actuelle, à la Terre primitive, à Mars, à Vénus, ou encore à la Lune de Saturne, Titan. Et par analogie, le système mesure la probabilité de présence de vie sur ces astres telluriques qui ont en commun une atmosphère. Cette intelligence artificielle pourrait bien apporter donc des informations précieuses sur les différents types d'exoplanètes que les scientifiques observent actuellement. Peut-être moins d'accidents d'éoliennes pour les oiseaux en migration. Les scientifiques du laboratoire d'ornithologie de New York ont mis au point en tous les cas des radars et modélisé des cartes en temps réel pour suivre les circuits migratoires des oiseaux. Ce système indique aux propriétaires de parcs éoliens américains le moment opportun pour arrêter justement les éoliennes et ainsi laisser passer paisiblement les grandes migrations nocturnes. C'est principalement en mesurant la température de l'air, facteur important pour la migration des oiseaux, que le système fonctionne. Il permet de détecter ainsi jusqu'à 1700 oiseaux par kilomètre carré dans le cas de grandes migrations. Et puis les émeus d'Australie, deuxième plus gros oiseau au monde après l'autruche, n'ont pas toujours eu la même taille. Une étude publiée dans la revue Biology Letters montre qu'il y a 2 siècles, plusieurs sous-espèces d'émeus de différentes tailles colonisaient les îles autour du continent australien. Mais ces espèces ont depuis toutes disparu. Originalité, en tous les cas, la taille des individus était proportionnelle à celle de l'île de résidence. C'est ce qu'ont révélé les analyses génétiques des fossiles. De quoi mieux expliquer la taille unique des émeus d'Australie et l'évolution de cette espèce. Allez, on s'intéresse aux vampires psychiques dans un instant dans le dossier. Yeah.
Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 So good, so good, so fucking real. Just the way you make me feel.
You know
my love is so, please don't stop it. You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on a shag carpet. Ooh. You know my love is so, please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up. That's just the way you make me feel.
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 So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
C'était Janelle Monae.
La tête au carré sur France Inter.
Les vampires psychiques, c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi pour comprendre qui sont ces personnes capables de nous vider toute notre énergie sans que nous en soyons d'ailleurs forcément conscients dans les premiers temps. Stéphane Clergé, vous êtes notre invité psychiatre et vous publiez donc ce livre Les vampires psychiques aux éditions Fayard et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Qui sont d'abord ces vampires psychiques? Racontez-nous, vous, parce que vous avez inventé ce terme. Comment on donne naissance justement à un terme comme ça et comment vous avez observé d'abord l'existence de ces vampires?
En fait, je l'ai vécu moi-même. Je suis arrivé à une période de ma vie, vous savez, on est un petit peu étiré entre les deux générations, les enfants et encore jeunes et les parents vieillissants. Et on réalise que finalement, on peut souffrir d'être un peu vampirisé, même par des bonnes personnes. Mmh. Et j'ai un métier où, par nature, je me fais évidemment vampiriser, mais j'en avais jamais souffert jusqu'à présent. Ouais. Et c'est quand j'ai ressenti cette dévitalisation que je dis, mais oui, c'est bien sûr, j'ai pu mettre ce terme sur ce que beaucoup de patients pouvaient me décrire. Et puis, pour rien vous cacher, je suis assez fan des séries de vampires.
Oui, c'est ce que vous expliquez, effectivement. De quelle façon un psychiatre est véritablement vampirisé par ses patients, alors?
Ah ben, quand, effectivement, on a
Parce que c'est votre métier, après
oui,
tout.
Oui,
hein.
Oui, tout à fait. Et donc, en général, j'ai une production suffisante, ouais. J'allais dire, pour donner. Mais il y a un moment quand, dans sa vie privée, on est soi-même déjà vampirisé, eh bien, on atteint ses limites, comme dans tout métier. On a des limites. Et je suis arrivé aux miennes, j'ai découvert que je pouvais en avoir, que je n'étais pas un surhomme.
Ouais. Mais c'était quasiment un burn-out, alors, ou pas?
Non, heureusement, je m'en suis rendu compte avant. Non, je n'ai pas fait de burn-out. Non, mais j'ai ressenti des choses que je n'avais pas l'expérience. Mais il y a des gens qui, effectivement, victimes de vampires, vont jusqu'à l'effondrement. Moi, j'ai vu des personnes qui perdaient, effectivement, des kilos, qui s'amaigrissaient, sans que ce soit stricto sensu une dépression. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tristes, mais ils étaient vraiment dévitalisés.
Ouais, ça, c'est ce qui revient aussi dans les témoignages des personnes qui sont présentes dans cet ouvrage. Et on voit vraiment que ça concerne un cercle extrêmement large, depuis le milieu professionnel jusqu'à nos proches, nos intimes, voire le couple qu'on constitue.
Oui, finalement, c'est très concernant. Mais vous savez, le parasitisme, ça concerne toutes les espèces.
C'est ça.
Et il n'y avait pas tellement de raisons que ça ne concerne pas l'espèce humaine. Et je ne sais pas très bien pourquoi on s'aveuglait un peu là-dessus. Mais peut-être que le mythe des vampires, parce qu'on entend des histoires de vampires dans toutes les cultures et depuis la nuit des temps, venait nous dire qu'ils existaient.
Ouais. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que chaque personne qui lira votre livre va découvrir ou va comprendre qu'il a autour de lui et autour d'elle un vampire psychique. Parce qu'on en connaît tous. Évidemment, on en a tous croisé, certains qui nous laissent des souvenirs très particuliers.
Oui, mais on est plus ou moins victime quand même. Il y a des gens qui vraiment se laissent pas faire, si j'ose dire. Et il y a par contre, en revanche, des victimes idéales. Donc on peut être victime à certains degrés. C'est-à-dire que oui, on accepte d'être un peu vampirisé, on accepte de vampiriser un peu autrui. Pour autant, il y a parfois des vampirismes bien, bien intenses et qui s'installent dans la durée et qui, là, sont vraiment préjudiciables.
On va explorer ça, évidemment, avec vous. On verra aussi quel est le profil idéal de la pauvre victime. Mais attention, parce que justement, et c'est l'objet de la question de Laure sur franceinter.fr, les vampires psychiques ne sont pas forcément les autres. Est-ce qu'on ne peut pas être soi-même un vampire sans s'en rendre compte ?
On l'a tous été, les nouveau-nés sont des vampires par définition, et puis ensuite ils s'autonomisent et apprennent à pouvoir donner autant qu'ils reçoivent. Donc c'est dans notre nature, et je vous parle pas du fœtus ou de l'embryon, donc oui, c'est en nous cette capacité-là, et c'est vrai qu'on a tous par moment des périodes où on a besoin de se nourrir des autres parce qu'on ne peut pas se ressourcer par soi-même. Donc ça peut être des périodes de notre vie, et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on va avoir plus ou moins envie de vampiriser. On est vampire à partir du moment où on se contente de recevoir d'autrui l'écoute, l'attention, l'énergie, la force de travail et qu'on ne donne jamais. Donc on peut l'être partiellement, c'est autorisé à voir si on l'est dans notre globalité. Et là, c'est plus embêtant.
Alors se nourrir des autres, soit, mais le problème, c'est effectivement lorsqu'on dévitalise l'autre. Hein, parce que c'est ça finalement, c'est ce point de non-retour là qui est problématique.
Ça s'observe notamment dans les couples ou dans la famille où effectivement on vit sous le même toit de quelqu'un, son amoureux, son père, sa mère, et au travail, quand effectivement on a un ou deux collaborateurs uniquement qui vont, alors là pour le coup c'est plus concret, profiter de notre force de travail, on aime la recherche ici, donc profiter de nos travaux de recherche, ça peut être quelque chose de très concret, les journalistes qui profitent du carnet d'adresse d'un autre, mais ça peut être aussi beaucoup plus abstrait, beaucoup plus, vous savez, la relation humaine c'est une économie, donc il y a des gens qui donnent une écoute, une attention et d'autres qui prennent. Et cette économie-là qui est finalement assez peu étudiée en termes d'énergie, elle peut être tout à fait déséquilibrée.
Alors justement, vous avez fait parler les victimes, entre autres, dans votre livre. Il y a plein de témoignages. Hein. Katia, 36 ans, quand je rentrais de mon travail, j'étais épuisée. Je croyais que c'était dû à une surcharge jusqu'à ce que mon supérieur soit muté. J'ai alors réalisé que mon N+1 m'avait vidé de mon énergie avec ses demandes impossibles. Et ce qui est dingue, c'est qu'on ne se rend pas compte exactement de la raison exacte pour laquelle on sans fatiguer, alors que là, elle était très identifiable. Hein.
Oui, elle était identifiable, mais encore faut-il accepter de la voir, parce que, j'allais dire, le vampirisme, un peu comme dans les films, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est en apparence indolore, c'est-à-dire que le mal-être, on l'attribue à d'autres choses. Et effectivement, parfois, c'est sous notre nez, on se rend compte et on réalise qu'effectivement, il y a une personne au contact de laquelle on se sent vraiment fatigué.
Ouais. Mon frère cadet a toujours exigé, obtenu de moi que je l'assiste en tout domaine. Il m'a saigné moralement et financièrement, dit David, 40 ans.
Oui, oui.
Les
oui.
frères et sœurs aussi. Hein, ouais.
Ah, surtout les frères ouais. et sœurs, beaucoup plus les frères et sœurs. Parce que d'une certaine manière, il y a une emprise qui peut se faire facilement de l'aîné au cadet, mais parfois c'est l'inverse. Et puis on est au quotidien, donc il y a les liens affectifs qui font qu'on accepte finalement ce vampirisme-là, surtout quand les parents ne mettent pas les holà.
Oui. Nathalie, 45 ans, depuis toute petite, je suis sous la domination de ma grande sœur. J'ai quasiment élevé ses enfants avant comme après son divorce. Et dès que j'avais un petit copain, elle réussissait à me faire rompre pour que je reste à son service.
Oui, mais je pense que ça parle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Et ce vampirisme-là, ça se met en place tout petit, souvent.
Ouais. Et puis, un autre témoignage, Damien, qui a 50 ans. Bien sûr, elle est ma mère. Mon devoir est de m'occuper d'elle. Pourtant, elle n'a jamais été tendre avec moi, même quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je n'en fais jamais assez pour elle. Et si j'en crois, ses reproches incessants. Alors ça aussi, les mères vampires, vous les décrivez très très bien. Hein.
Oui, alors encore une fois, il est normal d'aider ses parents avec l'âge. Mais il y a des limites quand même à ne pas dépasser. Et effectivement, il y a certains parents qui abusent vraiment de leurs enfants.
Stéphane Clergé, alors évidemment, ceux qui nous écoutent vont parfois avoir l'impression d'entendre parler des pervers narcissiques, hein, qui ont été très populaires d'ailleurs ces dernières années. Mais justement, dans ce livre, vous faites bien la distinction entre les deux catégories. On va écouter justement le témoignage de Sylvie, c'est issu de l'émission Mille et une vies sur France 2. Elle va nous parler de sa relation amoureuse avec un pervers narcissique. Et on verra si justement on peut employer les mêmes termes pour un vampire psychique.
Il est rentré dans ma vie après mon mariage et mes deux enfants. Son côté
enveloppant,
son côté, il avait une allure de félin, il avait des mains que j'adorais et j'avais une sensation d'être piquée et droguée. Il est séducteur, son regard, sa façon d'être, ça faisait un coup noir, un coup blanc. C'est comme s'il se retournait très rapidement, quoi, je veux dire, imprévisible. Et moi, ça me plaisait, ça m'envoûtait, on va dire. Ça s'arrêtait, hop, plus personne, 8 mois, paf, il revenait, même 10 ans de séparation. J'ai manqué de lucidité parce que j'étais en manque d'affection. J'avais eu un papa qui était relativement autoritaire et qui était très décideur. Et je pense que à l'intérieur de moi, je recherchais ça.
Voilà, un témoignage donc sur un pervers narcissique. Alors quand on entend justement ce témoignage, on se dit presque qu'il ressemble à un vampire psychique. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence au fond entre les deux?
Il peut y avoir des points communs. D'abord, le pervers, il peut aussi être vampire. Mais d'une manière générale, là, on a parlé de félin. Le vampire n'est pas un grand prédateur ou rarement il peut l'être. C'est assez rare. C'est au contraire souvent des gens qui, on ne s'en méfie pas. On va les aider. Et le pervers narcissique est quand même beaucoup plus rare que le vampire. Le pervers, lui, son but, c'est de nous faire du mal. C'est un félin, il joue avec nous. Il jouit de notre souffrance. Et surtout, il peut être très indépendant, il n'a pas besoin de nous. Alors que le vampire, il ne jouit pas de notre souffrance, il a juste besoin de s'alimenter. Donc il nous pompe l'air, il nous dévitalise, il prend notre sang, notre énergie. Mais il a besoin de nous pour vivre, donc il ne va pas nous faire souffrir, il ne veut surtout pas nous détruire, parce que sinon il n'aura plus de garde-manger. Ouais. Donc c'est plus des gens qui vont attirer notre attention, dont on va s'occuper, qu'on va prendre en charge, qui vont nous toucher, ou vis-à-vis desquels on va se sentir coupable. Alors oui, le pervers peut nous culpabiliser, mais en tout cas, le vampire utilise beaucoup ça, la culpabilité. Après, il y a peut-être 20% des vampires psychiques qui sont des grands prédateurs, qui profitent des autres clairement pour réussir. Donc, il y a des vampires qui sont comme ça, qui ont une grande aura, qui ne savent rien faire par eux-mêmes, mais qui profitent du travail des autres. Mais beaucoup de vampires sont des gens qu'on va aider, qui ont l'air de rien, qui nous apitoient finalement. Et c'est pour ça qu'on se sent presque coupable de ne pas les aider.
Ouais, et vous dites qu'il y a beaucoup plus de vampires psychiques en réalité que de pervers narcissiques.
Hein. Oui, parce qu'ils sont moins flamboyants, si j'ose dire.
Stéphane Clergé, vous êtes notre invité. Comment les reconnaître et comment leur échapper, ces vampires psychiques? C'est le thème de l'émission et les messages qui arrivent sur franceinter.fr.
Qui se déhanche, une histoire qui a pas de chance, une histoire qui a pas de sens, une histoire pire qu'un sale dimanche, une fraction dans les rangs d'un sale monde de France. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Encore une histoire qui bave, une histoire bien plus rave, une histoire de cave pour un peu on se marave, une histoire bien pélange, une histoire qu'on enfonce, une histoire pleine de ronces. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Hey, tout seul.
qui faire la gueule. Moi je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule.
Encore une histoire qui crève là sur le trottoir. On se tourne le dos, on crache son dernier glavio. Tous mes amis m'ont dit que c'était moi, mon pire ennemi. Je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule.
Et c'était Mano Solo.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Stéphane Clerget, vous êtes notre invité avec ces vampires psychiques qui paraissent chez Fayard, sous-titré avec cette question. En tout cas, n'avez-vous jamais senti que l'on vous vidait de vos forces? Parce que c'est ça au fond, hein. Une des manières de repérer d'ailleurs ces vampires psychiques, c'est d'écouter un peu ce qu'on ressent vis-à-vis de ces personnes qui à la fois nous attirent et nous mettent aussi très mal à l'aise. Hein.
Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'il est important effectivement de percevoir que à chaque fois qu'on est en relation avec cette personne ou depuis qu'on vit avec cette personne ou depuis qu'on travaille avec cette personne, eh bien on fatigue progressivement. Donc il y a la fatigue, ça peut aller parfois jusqu'à des réactions physiques de somatisation. Ouais. Évidemment d'abord des réactions dermatologiques, la peau, puisque c'est la partie qui est en contact avec l'autre, hein, eczéma, urticaire ou autre, mais parfois c'est plus intérieur avec des douleurs, des maux de dos surtout. Ça c'est assez typique des maux de tête, évidemment. Donc, le corps vient nous signaler qu'on est dévitalisé avant, parfois, qu'on se rende compte qu'on est vidé psychiquement.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'en lisant vraiment votre livre, on se dit, ben oui, c'est vrai, cette personne que j'ai fréquentée, à la fois, j'étais admiratif de cette personne, elle suscitait une certaine fascination, et en même temps, on se sentait soit mal, soit dévalorisé à ses côtés. Et là, on est vraiment face à un vampire psychique.
Oui, du type grand prédateur, mais on peut l'être aussi face à des gens qu'on n'admire pas, mais desquels on se préoccupe, qu'on s'inquiète, soi-disant des amis, mais on réalise qu'on parle une demi-heure au téléphone et c'est toujours l'autre qui parle. C'est toujours les problèmes de l'autre. Et nous, on a l'impression d'être aspiré.
Ah, c'est ça, par exemple, aussi. Oui,
ah, c'est
vrai.
Beaucoup ça.
Oui, c'est vrai.
C'est plus
ça. On a tous connu ces bavards qui, effectivement, sont capables de vous tenir comme ça pendant très, très longtemps.
Et alors, ce qui est fascinant...
Sans jamais s'intéresser à vous. Hein.
Jamais. Mais ce qui est fascinant, c'est que sur un plan psychologique, on pourrait se dire, mais bon, après tout, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Eh bien, si. On réalise que notre écoute, même la plus flottante possible, eh bien, elle nous épuise. C'est-à-dire qu'après 7 heures, on est épuisé. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est notre réaction aussi face à ça, à ces gens qui nous volent notre attention et notre écoute et qui jamais nous donnent leur attention.
Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui se disent, mais oui, bien sûr, j'en connais évidemment autour de moi. Parce que, alors, l'exemple que vous citez, là, il est tout à fait parlant. Il y a ce témoignage de Stéphane sur franceinter.fr qui nous dit, j'ai récemment mis un terme à une relation vampirique que j'ai mis 6 mois à déceler, ce qui est assez rapide finalement. Un collègue de travail qui voulait tout savoir de ma vie avait tendance à dénigrer toutes les autres personnes qui circulaient autour de moi. Il fallait toujours lui apporter de l'aide, du réconfort, du soutien et de l'écoute. Mais peu ou pas de retour de sa part, j'ai fini par faire une cassure nette et contrairement à ce que j'imaginais, plus aucune nouvelle depuis. Je me sens soulagé mais également en colère d'avoir été si naïf.
C'est un très bel exemple et c'est vrai que j'ai quand même un peu de mal à expliquer pourquoi on met si longtemps à s'en rendre compte. Parce qu'une fois qu'on s'en rend compte, c'est bon, j'allais dire le plus dur est fait. Bon après, parfois c'est un peu plus difficile quand on vit avec la personne.
Mais parce qu'on se sent pas toujours si mal avec ces personnes, c'est ça qui est pernicieux.
Exactement,
aussi.
Exactement, parce que ça nous donne un rôle malgré tout. Mmh. Et même si on est aidant, même si on se sent utile, on se sent... Et c'est ça, la personne vampirisée finalement a le sentiment de nourrir l'autre et je pense que ça parle à la mère ou au père qui est en nous. Mmh. Et je crois qu'il y a quand même une jouissance à nourrir l'autre, même si ça nous épuise.
Alors on va écouter l'extrait du film Irréprochable de Marnier, Sébastien Marnier, sorti en 2016 avec Marina Foïs qui est accusée par son avocate de harcèlement. Elle est des deux côtés, elle se sent vampirisée, mais c'est elle en réalité la vampire.
Madame Beauvau, je suis contrariée.
Pourquoi ?
Ah, je suis contrariée parce que je ne sais pas comment je vais vous défendre.
Moi, je vais vous dire, moi, comment vous allez me défendre. On est dans un cas typique de harcèlement sur le lieu du travail, donc voilà, ça se plaide, le harcèlement.
Sauf que ce sont les avocats de votre ancien patron qui vont plaider le harcèlement.
Pardon ?
Alors, monsieur Lopez a reconnu avoir eu une liaison avec vous.
Ah, enfin, quand même. Non, bien, non, il est temps, je veux dire. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, non ?
Oui. Sauf qu'il affirme que lorsqu'il a voulu rompre, vous avez commencé à le harceler, à le suivre.
Pardon. Vous avez appelé votre ancien patron 1985 fois entre le 8 novembre 2013 et le 4 mars 2014. Vous lui avez envoyé 1089 SMS et vous avez dormi à plusieurs reprises sur son palier. Il y a des témoins. Je suis votre avocate et je vais vous défendre. Mais j'ai de sérieuses réserves sur les chances de votre succès. Là.
Oui, alors là, on est vraiment dans le harcèlement. Hein. C'est plus que du vampirisme, même, non?
Oui, j'ai vu ce beau film, mais c'est vrai que là, c'est un cas spécial, mais c'est quand même une forme de vampirisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, là, le vampire n'a pas du tout conscience de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait.
Et il se place en position de victime aussi. Hein.
Oui, ça, oui, c'est un des... tout à fait. Puisque de toute façon, il a faim, il a besoin, donc c'est normal qu'on le nourrisse. Donc, toutes les justifications sont bonnes à prendre et quand effectivement, bah, c'était le cas de Stéphane, là, de votre témoin, quand une fois que c'est vraiment plus possible, bon, bah, il va trouver une autre victime.
Ma fille, dit Stéphanie, a été victime lors de ses deux dernières années de collègues d'une amie très perverse. Nous avons réussi à l'en sortir. Il a été difficile de comprendre le niveau de mensonge, de manipulation de cette jeune fille et de son incidence sur leur groupe d'amis. C'est une expérience difficile à un jeune âge, mais maintenant, notre fille connaît la position de victime et c'est un tant soit peu s'en préserver.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'il s'agit effectivement d'une jeune fille. Hein. Voilà, ça commence tôt. Et c'est vrai que c'est un savoir qu'on ne transmet pas du tout aux enfants et aux ados. Or, ces relations humaines toxiques, hein, vampirisme ou autre, eh bien, elles apparaissent très tôt. Et je pense que c'est important d'en parler avec des mots, évidemment, à hauteur d'enfants, avec les adolescents, pour leur expliquer ces mécanismes-là qui peuvent s'opérer et qui peuvent être dangereux parce qu'il y a des adolescents vraiment qui se laissent aussi vraiment vampiriser par d'autres qui ont plus d'ascendant sur eux ou qui prennent pitié de quelqu'un et qui consacrent toute leur énergie parce que c'est vraiment un âge où on a envie d'aider, on aide jusqu'au bout. Hein.
Ouais. Est-ce que les leaders sont souvent des vampires psychiques ou pas, les leaders d'un groupe ou justement à l'école, dans une cour de récréation, on voit souvent ceux qui prennent la tête
Oui, pas toujours. Non, il y a des bons leaders qui deviendront peut-être présidents, mais qui effectivement s'occupent de l'harmonie au sein du groupe. Hein. Il y en a un peu pour tout le monde. Chacun doit donner mais reçoit protection. Et puis, effectivement, de mauvais leaders qui se contentent de profiter des autres pour régner et pour ne rien faire.
Ouais, le problème du vampire étant qu'il avance masqué, sans vouloir nous faire de mal, mais c'est ça finalement qui nous fait tomber dans les pièges.
Oui, on le voit pas venir. Mmh. On le voit pas venir parce qu'encore une fois, assez souvent, il est touchant et c'est nous qui allons presque vers lui. Il nous regarde, il nous touche, il a l'air de rien. Et assez souvent, c'est nous qui allons vers lui nous faire vampiriser parce qu'on ne se méfie pas.
Ce terme dont vous êtes l'auteur, Stéphane Clerget, il s'est imposé à vous facilement parce qu'on le retient très bien pour le coup et je trouve qu'il est très direct et il veut tout de suite dire ce qu'il émet comme idée. Hein.
Oui, mais c'est vrai que les vampires, on les connaît, quoi. Donc d'avoir baigné peut-être dans les séries de vampires.
Oui, c'est ça. Hein. Vous avez été marqué, donc.
Oui,
et admiratif de ces vampires.
Oui, agréable. Oui, c'est vrai. Ils font un peu rêver quand même dans les films, en tout cas leur côté. Oui, et puis il y a une dimension, l'adolescence aussi, qui est intéressante chez les vampires, c'est la dimension érotique aussi. Mmh. Et il peut y avoir du vampirisme dans la sexualité. Oui. Il y a des témoignages comme ça de gens qui ont eu des histoires sexuelles qui les surprenaient eux-mêmes, c'est-à-dire il n'y avait pas forcément d'affection, mais ils étaient dépendants de l'autre physiquement, et pourtant, après chaque relation, ils se sentaient vidés, épuisés, et pourtant, ils y retournaient.
Oui. Il y a une certaine énergie sexuelle, d'ailleurs, dites-vous, chez le vampire psychique.
Oui, il se nourrit de l'énergie de tous ses partenaires. Donc effectivement, il vient voler notre énergie sexuelle aussi.
Julien nous dit, anciennement victime de vampires psychiques, j'ai réussi à les détecter en me rendant compte que moi-même recherchais ça et que je le faisais également à autrui. Le plus difficile est de ne pas culpabiliser lors de la séparation.
Oui, c'est le maître mot est là. Et c'est vrai que les gens qui ont une nature à se sentir coupable sont des victimes idéales pour les vampires psychiques. Parce que effectivement, ils cèdent, ils ont trop de compassion, si j'ose dire aussi. Et ça, c'est vraiment une porte d'entrée terrible pour être vampirisé.
Alors, une histoire de couple, Mon Roi, Mewen, sorti en 2015 sur les écrans. Alors, vampire psychique ou pervers narcissique aussi, on va écouter, puis vous nous dites ce que vous en pensez après.
Tu cherches quoi exactement? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux?
Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu es tellement mieux.
Tu te rappelles d'abord que c'est toi qui es venu me chercher?
Moi, je suis venu te chercher.
T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu? Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque.
Ouais.
On quitte les gens pour la même raison.
Exactement, pour la même chose, exactement.
Pour laquelle
c'est exactement
le gens
ce que je pense.
En premier
exactement.
Lieu.
Et c'est pour ces raisons-là précisément.
D'accord. Donc ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment où il faut construire. Hein.
Mais on construit rien.
Ah bon?
Non, on se détruit, c'est tout. Pas toi.
Ah, pas moi.
Pas toi, parce que rien ne t'atteint et puis de toute façon...
La pudeur, t'entends les parler? Quand on aime, on souffre.
Alors, Vincent Cassel, est-il un pervers ou un vampire? Bon,
c'est clairement un pervers, mais encore une fois, il y a des pervers qui peuvent nous vampiriser. Heureusement, la plupart des vampires psychiques n'ont pas ce profil-là. Ils sont pas aussi, ils ont pas autant à cœur de nous détruire, et ils sont pas non plus aussi malins, aussi manipulateurs. Tous les vampires psychiques sont pas des manipulateurs. C'est un talent hein, d'être manipulateur. Donc, évidemment, ceux qui le sont, c'est plus pratique pour eux pour se trouver des victimes. Mais beaucoup le sont pas forcément tant que ça. Simplement, ils trouvent une proie et ils essaient de la garder.
Johan sur Twitter nous dit, est-ce que le vampire ne se contente que d'une personne ou est-ce qu'il peut s'attaquer à plusieurs personnes à la fois?
Eh bien, ça dépend s'il a de quoi manger. C'est-à-dire, une personne peut lui suffire s'il vit avec et c'est son fournisseur principal, hein, un homme qui, je sais pas, tel musicien qui vit avec une femme, qui travaille, qui s'occupe de tout et qui lui donne tout en permanence, la béquée, l'énergie. Et d'autres, s'ils trouvent pas effectivement au travail, dans leur environnement familial, social, une victime suffisamment vitale pour les nourrir, eh bien, ils vont piocher à gauche, à droite.
On écoute Raphaël avec les gens et puis on se retrouve dans un instant. D'autres messages pour vous, Stéphane Clergé.
Les gens sont fous, les gens sont sans histoire, ils s'embrassent dans le noir, les gens s'endorment sous les gens. Les gens se disent tout, et puis plus rien du tout. Ils dorment un peu moins tard, ne dorment plus du tout. Mais toi, 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 tu n'es pas comme eux. Toi, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Les gens sont fous, ils regardent les étoiles et puis tirent en l'air à coups de revolver. Les gens se conduisent mal, ils achètent le journal, trouvent que le monde va mal, que tout est immoral. Mais toi, toi, tu n'es pas comme eux. Toi, toi, tu n'es pas comme eux. C'est sous l'olivier, jamais oublié. Tu n'es pas comme eux, toi, toi, toi. Tu n'es pas comme eux. J'étais en moi, c'est sous l'olivier, jamais oublié. Les gens sont fous, les gens sont sans histoire, les gens sont dérisoires et comptent plus que tout. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais.
Et c'était Raphaël.
La tête au carré sur France Inter.
T'as vraiment essayé de me foutre tout le monde à dos. C'est fou hein, comme quand on se trompe. Tu m'aurais bien fait du mal en tout cas. Mais bon, je te mets pas tout sur le dos. C'est ma faute aussi. Je me suis laissé faire. Je t'ai laissé dépasser les limites à un moment. Bon, d'un autre côté, t'es pas une môme. J'espère au moins que cette histoire te servira, parce que si t'apprends rien, alors là... C'est vraiment triste.
Qu'est-ce que je t'ai fait?
Oh non, putain, t'es forte. Tu fais encore la petite victime. Ça marche, hein, c'est fou, je me fais encore avoir. Il est là, le problème. Tu fais tout pour rendre l'autre dingue, et après tu prends ton air de chien battu. Je t'ai tout donné, et toi, tu juges, et tu penses que tu vaux mieux. Heureusement que j'ai trouvé Isa. Tu vois, par exemple, avec elle, je me sens bien. Elle me fait rire, et même comme je suis. Avec toi, je me sens mal. Je mange, je deviens dure. Tu me donnes le mauvais rôle, c'est insupportable. On a perdu du temps, tant pis.
Voilà, Respire de Mélanie Laurent, sortie en 2014, et celle que nous venons d'entendre, Sarah en l'occurrence, bah c'est elle le vampire, hein. Il ne faut pas se tromper, mais justement, les vampires font toujours croire qu'ils nous veulent du bien, enfin souvent.
Bah, ils se défendent, hein. C'est une question de survie, donc ils ont besoin de nous, donc ils ne vont pas nous laisser leur échapper facilement, donc tous les moyens sont bons pour continuer de profiter de nous. Et le vampirisme entre amis, notamment à l'adolescence, c'est pas rare du tout, hein. C'est étonnant d'ailleurs, comme ça peut être extrêmement intense et dévitalisant, peut-être même plus entre filles où les relations sont particulièrement intenses sur le plan affectif, hein, parce qu'on rejoue la relation qu'on avait avec sa mère, et donc ça peut être effectivement extrêmement dangereux.
Et vous parlez bien de parasite, hein. C'est cette image qu'on retient aussi, hein, finalement, oui. du vampire. Hein. Il est là sur son hôte et oui, il bouge plus, hein, jusqu'à ce qu'on l'arrache. Non, mais c'est ça. Ouais.
Ah oui, il s'accroche. Hein.
Alfred nous dit sur Facebook, comment savoir si on est soi-même un vampire et comment s'en soigner? Si Alfred se pose la question, c'est qu'il a peut-être déjà un élément de réponse. Hein.
Oui, assez souvent d'ailleurs, les vrais vampires psychiques se préoccupent pas tellement de savoir s'ils le sont, ils le vivent pas trop mal. Donc ouais. C'est déjà qu'il l'est pas tant que ça. À la fin du livre, je propose un test d'ailleurs.
Oui, alors c'est
pour
vrai.
Voir
oui.
Si on,
il y a
si
un certain nombre de questions.
Mais il est important de voir si déjà, sur certains points, on ne l'est pas. C'est-à-dire si on est capable d'écouter autrui, si on est capable d'aider autrui, si on est capable déjà de se plier en quatre, de travailler pour quelqu'un, c'est qu'en tout cas, on n'est pas à 100% vampire. Mais effectivement, on peut l'être avec une personne. Mmh. On peut abuser d'une personne qui, finalement, a peut-être envie aussi de se faire vampiriser par nous. Donc là, il faut peut-être mettre le haut là.
Quelques questions du test, hein, Stéphane Clergé, que vous avez rédigé pour savoir si on est soi-même un vampire. Avez-vous le sentiment que les gens autour de vous ont beaucoup de problèmes? Première question. Ou pensez-vous que les personnes qui acceptent de vous aider vraiment sont si rares que ça? Ou encore, considérez-vous que les gens de votre milieu ont une vie bien plus difficile que la vôtre? Voilà, il y a 8 questions comme ça. Mmh. Et selon la réponse, on peut voir son degré de vampirisme, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Sur l'échelle de l'évolution. Parce que c'est ça, finalement, dans la sélection naturelle et dans l'évolution, le vampire, il essaie de s'en sortir de cette façon-là aussi. Hein.
Exactement. Et à la fois, ceux qui s'en sont tirés le mieux, c'est quand même ceux qui pouvaient par eux-mêmes être indépendants et pas forcément dépendre d'autrui. Donc, dans l'évolution de l'espèce, les vampires, c'est pas forcément ceux qui sont le plus élevé. Mais il y a des périodes, il y a des sociétés qui vont ou non favoriser le vampirisme. C'est vrai que quand on est en période où ça va plutôt bien, où il y a pléthore, où les gens vont plutôt bien, ça facilite le vampirisme parce que il y a moins de pression sur les individus.
Ouais. Alors, justement, si vous saviez le nombre de témoignages qui arrivent sur le site de l'émission, Stéphane Clergé, ça tombe, franceinter.fr et puis également les réseaux sociaux. Catherine, par exemple, qui nous dit « Votre sujet m'intéresse parce que je suis consciente depuis peu d'être vampirisée par ma fille aînée et par mon gendre. Ils prennent beaucoup, mais n'ont jamais une attention en retour. J'ai décidé de m'éloigner d'eux géographiquement et moralement. » Il faut en arriver là, parfois, hein, pour se protéger.
Oui, c'est intéressant de voir que les parents peuvent en être victimes, parce que les parents, ça leur paraît normal de s'occuper de leurs jeunes enfants. Mmh. Et ils se laissent prendre au jeu, les enfants grandissent, deviennent adultes et continuent. Et nous, on est bercés en tant que parents par cette illusion, comme si le monde n'avait pas changé, jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, c'est pas normal, c'est pas dans l'ordre des choses. Et qu'à un moment, il sait bien que les enfants devenus adultes se préoccupent un petit peu de nous, parents. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut faire une leçon et couper court pour que les enfants réalisent. Mais vous allez voir qu'ils vont la traiter d'ingrate et se plaindre d'elle dans un premier temps.
Et la culpabiliser, puisque c'est vraiment la clé de voûte, finalement, du vampire.
Oui,
hein.
C'est l'arme fatale.
Les vampires sont-ils des personnalités dépendantes, ce qui expliquerait leur comportement, demande Nadia. Oui, hein,
d'une manière générale. Ou alors, parfois, c'est juste des gens absolument incompétents qui ne veulent pas faire d'efforts pour se ressourcer et qui sont un peu fainéants, si j'ose dire. Donc des dépendants ou des lascifs.
Alors Jeanne, à l'inverse, nous dit, est-ce qu'une personne qui donne sans jamais accepter de recevoir et qui de ce fait nous rend redevable ne peut-elle pas être qualifiée elle-même de vampire psychique?
Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant et je la remercie. Effectivement, c'est une forme, du coup, presque un peu pervers de vampirisme, mais je retiens. Je trouve ça intéressant.
Alors, le profil de la victime, justement, Stéphane Clergé. On a un autre Stéphane sur Facebook qui nous dit, est-ce que les grands empathiques au versant soignant sont les meilleures proies pour ces vampires.
Mais tout à
oui,
fait.
Oui, apparemment.
Oui, oui, Stéphane. Oui, oui, les aidants, les gens qui ont de la compassion, les gens qui ont du cœur, les gens qui se sentent coupables, hein, qui ont toujours l'impression d'avoir trop reçu, d'avoir été trop gâtés par la vie, et ben c'est les, ce sont les victimes idéales. Et les vampires les repèrent très vite et savent bien en profiter. Hein.
Patrice nous dit, les religions et les sectes qui comportent par essence une idée de soumission ne sont-elles pas une forme extraordinaire de vampirisme ancestral sournois?
Je me permettrai pas d'aller jusque-là, parce que bon, moi j'ai pas de religion, mais je considère quand même...
Alors parlons des sectes.
Oui, les sectes, on va dire. Oui, bien sûr, oui, oui. Dans les domaines sectaires, il y a un grand vampire qui effectivement abuse de toutes ses victimes, qui se sentent unis dans l'acte d'être vampirisé, si j'ose dire.
Alors justement, vous parlez aussi des aidants hein, dans cet ouvrage comme étant aussi des profils de victimes. Sylvie nous dit « Je réalise en vous écoutant que je vis avec un vampire psychique. Je me suis occupé énormément de mon compagnon qui a eu un cancer. Il est maintenant guéri, mais il continue à se considérer comme malade, à me solliciter au point de ne pas reconnaître que c'est moi maintenant qui le suis,
ah
malade.
Ouais, » C'est fort. Mais ça, c'est un vrai signe, parce que le vampire psychique, on lui donne et on a l'impression qu'après, ça y est, il va aller mieux, il va pouvoir s'autonomiser et donner. Mais non, ce sont en fait des puits sans fond. C'est-à-dire qu'on donne et on a beau essayer de leur apprendre à pêcher, ils savent pas pêcher. Donc on leur donne du poisson, de la canne à pêche et tout ça, mais jamais ils le feront par eux-mêmes. Donc on a un sentiment, au bout d'un moment, d'ingratitude évidemment, mais aussi d'inutilité. C'est-à-dire, tout ça, à quoi bon ?
Yves nous dit, les vampires savent nous endormir notre vigilance, comme les moustiques savent nous anesthésier avant de nous pomper le sang. Bon,
oui,
voilà pour une image.
C'est vrai.
Et puis un autre témoignage, Valérie qui nous dit, je pense que mon compagnon agit en vampire. Alors ça y est, maintenant on n'a que des couples. Cette émission va faire de gros dégâts, hein, Stéphane Clerget. J'espère que vous allez être conscient. Mais Valérie nous dit, je ne souhaite pas pour autant me séparer de mon conjoint. Comment se préserver en toute connaissance de cause, alors, bon, face à ces vampires?
Dans la version la plus positive, on peut se dire qu'il y a une personne qui s'est mise en situation de vampirisme. Sans que ce soit forcément sa nature. C'est-à-dire, parfois, dans le couple, on va s'installer et l'autre peut être un peu complice, inconscient, et l'autre va se laisser vampiriser et donc on s'installe comme vampire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps vampire. D'ailleurs, en dehors du couple, ça se trouve, on n'est pas vampire. Donc là, c'est rassurant. Ça veut dire que son compagnon peut changer. Simplement, il faut taper du poing sur la table, rééquilibrer les choses, se questionner soi, mais pourquoi je me suis laissé vampiriser, et réorganiser le couple. C'est sûr que si on a quelqu'un qui ne peut que vampiriser, qui est incapable de se ressourcer, là, c'est plus difficile.
Beaucoup d'auditeurs également nous parlent du rôle de la maladie, hein, comme étant elle-même d'ailleurs un facteur de vampirisme au sein d'un couple. Hein, Sébastien, je pense avoir vampirisé ma femme durant 10 ans et l'avoir entraînée avec moi dans ma dépression malgré moi. Elle m'a dit d'ailleurs en avoir beaucoup souffert.
Oui, c'est vrai qu'il y a des situations comme ça, et la dépression en est une, où on va vampiriser l'autre, mais alors qu'on n'est pas un vampire, mais on est en situation de vampirisme lié à la maladie, c'est vrai.
Périne nous dit, la façon d'aborder le sujet donne à penser que vampires ou pervers sont volontaires dans leurs actes, or j'imagine que c'est souvent malgré eux. Alors comment aider ce genre de personnes à se rendre compte de leur nature et soigner cette partie d'eux-mêmes?
Moi j'allais dire, étant pédopsychiatre, je crois qu'il faut faire comme avec des tout-petits. Le tout-petit, il est vampire par nature, et on lui apprend à faire les choses par lui-même. Et il faut faire pareil avec l'adulte, lui apprendre à se ressourcer par la culture, par le sport, par l'écoute, par tous les moyens qui font qu'on est bien sans forcément être avec quelqu'un.
Et Sabine nous dit d'ailleurs, un enfant qui souffre d'addiction est aussi un véritable vampire, quel que soit son âge ou son addiction. Un de mes enfants est venu revivre chez moi, il a bientôt 40 ans et je ne peux rien faire pour lui, je me sens vidée. C'est son état alcoolique, dit-elle, qui influe mon humeur, qui dicte mon état mental.
Oui, et ce qui est intéressant dans l'addiction, c'est justement parce qu'on veut plus vampiriser ses parents, qu'on va, j'allais dire, se fixer sur une addiction, mais finalement le résultat est le même. Parce qu'on dépend de ses parents au final.
Grâce à vous, les auditeurs de la Tête au Carré vont découvrir qu'ils sont entourés de vampires, ce qui va nous permettre de faire de beaux cauchemars dans les nuits qui viennent. Mais on peut aussi se renseigner en vous lisant, Stéphane Clerget, les vampires psychiques, comment les reconnaître et leur échapper. Et c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'être venu.
Merci Mathieu.